Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On débrief l'actu avec du beau monde ce soir, mesdames, messieurs. Je l'ai dit tout à l'heure sur la petite vidéo réseaux sociaux, c'est un casting 5 étoiles. Rendez-vous compte, Marjorie Paillon, salut Marjorie.
Je suis la 5e étoile, c'est ça ou... La première, je ne sais pas.
La première étoile. En tout cas, tu es notre étoile.
Oh, c'est beau, c'est beau ce qu'on est là.
La cinquième, on verra.
Le cœur aussi.
Merci.
Très joli pull si vous êtes avec nous à la télé. Écoutez, en tout cas, si vous n'êtes pas avec nous à la télé.
Petite marque extrêmement sympathique.
Très bien.
Mais...
À côté de toi, c'est Didier Sens. Donc, casting 5 étoiles.
Tout à fait.
Didier, journaliste dédié à la tech depuis quelques années. Et en face de vous, Jérôme Colombin. Salut Jérôme.
Salut François.
Voilà,
à tous.
Que vous connaissez aussi, journaliste. Et podcasteur, voilà, vous pouvez le retrouver avec son média, le monde numérique, des podcasts, des interviews, plein de choses.
Des vidéos.
Voilà, des vidéos.
5 étoiles, les toilettes, master bedroom, tout ce que tu veux.
Exactement. Bon, messieurs, dames, on va passer cette petite heure ensemble jusqu'à 21h pour débriefer l'actu. On va parler réseaux sociaux avec voilà, ce serpent de mer de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà, encore les politiques s'emparent de ce sujet. Est-ce qu'on va y arriver? Ça me paraît compliqué, mais voilà. Le réseau Truth Social de Donald Trump. Ben voilà, ça marche bien. Et l'entrée en bourse est vraiment plutôt très très bonne. On va en parler tout à l'heure. On parlera aussi beaucoup cybersécurité. Les emplois anglo-saxons qui pourraient être, on va dire, menacés à cause de l'IA. Et on parle de 8 millions d'emplois. C'est quand même assez étonnant. C'est Marjorie qui a sélectionné ce sujet. Et puis on terminera, si on a le temps, avec le dernier clip de Big Flo et Oli. Vous savez que Big Flo et Oli cartonnent en ce moment. Alors évidemment, ils sont juges à The Voice. Mais voilà, ils font plein de tubes. Et leur dernier titre, en fait, est un clip qui a été réalisé par l'intelligence artificielle. Ça fait un peu le débat, ça fait parler. Et Didier voulait évoquer ce sujet avec nous. Mais pour débuter donc, on le disait, la WWDC, c'est la conférence des développeurs qu'Apple nous propose chaque année. C'est le 10 juin, je crois, c'est ça. Hein, voilà, le 10 juin prochain. À Cupertino, dans le fief d'Apple, hein, dans l'Apple Park. Et alors, pourquoi on parle d'une annonce qui aura lieu le 10 juin ? C'est pas qu'on est complètement débile et fou d'Apple, c'est que cette WWDC va avoir peut-être un goût un peu particulier, parce que Apple devrait faire sa transformation dédiée à l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on attend. Alors, bien sûr, cette WWDC sera à vivre dans Tech & Co sur BFM Business, mais d'ores et déjà... je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que cette WWDC va être un peu le nouveau départ d'un Apple qui est quand même un peu chahuté, hein ? Il y a le DMA.
Ils sont très très en retard sur l'IA. C'est impressionnant d'ailleurs, parce que eux qui rattrapent le coche régulièrement, oui. et en apportant souvent une patte plus originale, là ils ont été complètement largués par l'arrivée de l'IA générative. Siri n'est absolument pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un assistant personnel. Alors pourquoi on en parle à la WWDC ? Parce que c'est le lieu où se rencontrent tous les développeurs, donc il faut qu'Apple leur montre un peu les pistes de développement sur lesquelles vers lesquelles s'oriente la marque.
Rappelons que l'année dernière, c'était durant la WWDC qu'ils avaient annoncé le Vision Pro.
Absolument. Donc ils en profitent pour montrer un peu ces nouvelles directions. On parle assez rarement de matériel, c'est pour ça que c'est intéressant l'année dernière qu'ils parlaient du Vision Pro. Il y a quelques années en avant, ils avaient montré aussi d'autres choses, le Mac Pro, etc. Donc c'est d'habitude dédié aux OS. Donc on va parler de macOS, on va parler de iOS, on va parler de iPadOS, de WatchOS, etc. Et ils sont obligés de dire qu'ils ont entendu leurs clients et leurs développeurs leur parler d'IA. Donc ils vont être obligés d'aborder ce sujet. Sous quelle forme, ça reste encore à explorer. On sait qu'ils ont racheté une petite entreprise spécialisée dans l'IA générative. On sait qu'ils seraient en pourparlers avec Google pour étudier la faisabilité d'utiliser Gemini, ce qui ne serait qu'une solution transitoire, puisqu'on sait qu'Apple est très jaloux de ces technologies et qu'en général...
Ils aiment bien faire tout maison dans sa marmite. Hein.
Ils ont fait leur processeur pour éviter l'emprise d'Intel, ils ont fait leur OS depuis des années, donc ça ne serait que transitoire. Et on est très curieux donc de voir arriver un Siri qui serait enfin intelligent.
Oui, parce que pour aujourd'hui, ce n'est pas un assistant personnel, c'est plutôt un assistant impersonnel, hein, Siri. Hein.
Ah là, il est aux abonnés absents.
Il est abonné absent. Enfin, un peu comme Alexa d'ailleurs et Google, parce que c'est vrai qu'on pointe du doigt Siri, mais les autres sont pas vraiment plus intelligents. Hein. Pas encore, si ?
Ouais, je sais pas. Enfin, moi, Siri, je le mets vraiment en bas de la liste.
En bas de la liste, ouais, d'accord.
Mais c'est vrai que cette WWDC, alors le slogan, parce qu'il y a toujours la phrase choc, la punchline, c'est « absolutely incredible ». Avec un A majuscule, un I majuscule, qui rappelle curieusement le AI. Alors tu as raison de dire qu'on les attend sur l'intelligence artificielle, parce que on sait qu'il y a des choses qui se trament. Google, Gemini, peut-être, mais aussi peut-être Anthropic, peut-être OpenAI. Et il y avait un papier assez intéressant de Mark Gurman de Bloomberg, là, qui est le journaliste américain très bien informé sur Apple, qui émet plusieurs pistes et qui explique notamment pourquoi Apple pourrait décider de sous-traiter, en quelque sorte, au moins temporairement un chatbot à l'une de ces marques, ben c'est parce que ça présenterait différents avantages. Des avantages comme, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, il y a encore plein d'incertitudes sur les droits d'auteur, les questions éthiques, etc. Et ben là, Apple s'enlèverait les mains, puisque finalement, c'est pas lui qui s'en occuperait, ce serait son sous-traitant. Idem, des choses toutes bêtes, mais la ressource, la puissance, les data centers, il faut les mettre en œuvre, il faut les faire... Ben c'est pareil, c'est pas Apple qui s'en occuperait.
En revanche, ça risque de leur coûter cher.
Ah, ça
la
peut
prestation,
leur... enfin, ils ont pas de problème là-dessus.
Ils ont pas de problème là-dessus. Clair, et puis clair. Apple, Google, si c'est, ça devait être Google, leur verse déjà, c'est quoi, 20 milliards par an de 20 000, je sais
moi,
plus.
Je crois que c'est entre 15 et 20 milliards, ouais, c'est
20 milliards par an pour être le
pour
moteur,
être le
de,
moteur
recherche,
de recherche par défaut dans par Safari. Défaut,
ouais. Mais juste pour finir avec Gurman, il pose une question intéressante. Il dit, mais au fond, peut-être qu'Apple ne croit pas au chatbot d'intelligence artificielle. En tout cas, ne croit pas à l'heure actuelle à la réussite économique et au modèle économique des chatbots. Et c'est aussi l'une des raisons qui fait qu'ils y vont sans y aller. Donc on a quand même hâte de voir où ils vont aller.
Je partage pas du tout cette analyse, parce que depuis le début, Apple a toujours été, a toujours voulu créer son assistant personnel. Je sais pas si tu te rappelles, dans les années 90, ils avaient créé le Knowledge Navigator. Tu te rappelles de cette vidéo où on voyait un bonhomme qui parlait avec son... ce qui n'était pas encore une tablette tactile, mais qui était un
incroyable vidéo
comme ça.
Très visionnaire.
Voilà. Hein, avec et on voyait très bien ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'ils ont créé Siri. C'est pour ça que même au début, à l'époque du Mac, il y avait aussi une interface vocale qui exécutait les commandes qu'on lui donnait. Donc ils sont très très branchés là-dessus. Je pense qu'ils sont.
Non, mais je suis d'accord. Ce serait étonnant qu'ils fassent machine arrière aujourd'hui.
Ils peuvent pas faire l'impasse là-dessus. Mmh. Ils peuvent pas.
Marjorie, est-ce qu'ils sont au pied du mur finalement ?
Alors, tu parlais tout à l'heure des développeurs, des consommateurs qui leur ont bien fait remarquer que l'IA générative n'était pas tout à fait dans la logique Apple. Il y a le marché aussi, parce qu'Apple a quand même perdu 10% de son action depuis le début de l'année 2023. Donc, il y a forcément une sanction qui va arriver. Et Tim Cook sait très bien que s'il ne met pas Apple à la page de l'IA fût-elle générative, ça va commencer à se voir. Donc, ce qu'on attend le 10 juin notamment, c'est à la fois des opportunités pour les développeurs et les développeuses s'en saisir, des OS, on nous parle même d'iOS 18 qui serait la plus grande révolution en matière d'OS pour l'iPhone existant, donc on va voir ce que ça donne sur l'iPhone 16.
Je me méfie des superlatifs chez Apple, mais bon, on a le bénéfice du doute.
On va voir ce que ça donne pour les iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro qui doit arriver en septembre prochain, qui devrait arriver en septembre prochain, et puis tout ce que ça veut dire en matière de device. Il n'y a pas d'OS sans device qui va avec. Quand on a poussé en tout cas sur cette première partie de saison Apple Vision Pro, et qu'on essaie justement de donner le là de cette informatique spatiale, de la mixer avec du contenu, avec du divertissement, avec de l'entertainment, avec, pourquoi pas, soyons fous, de l'IA à un moment donné, qu'est-ce que ça peut donner et qu'est-ce que Vision OS peut justement offrir à ses développeurs et à ses développeuses en matière de créativité. Donc ça va être intéressant à voir. Et puis... en effet, ça va nous permettre de réussir à comprendre si les rumeurs sur l'alliance et le deal avec Google pour Gemini, sur le deal avec, avec OpenAI pour ChatGPT sont réelles ou pas. On va voir jusqu'à quel point aussi ils peuvent s'interfacer. Il y a deux choses que tu disais, Jérôme, qui sont fascinantes. C'est en effet le fait que
pour
peut-être...
Pour une fois qu'il
dit quelque chose de fascinant, absolument. Non, mais c'est le fait aussi que Tim Cook et toutes les big tech anticipent finalement les coûts de régulation qui arrivent a posteriori. C'est-à-dire que là, s'il faisait une vraie grosse alliance avec Google pour Gemini, pour intégrer Gemini dans les OS et les devices Apple, il y a quand même juste la Commission européenne d'un côté et puis quand même la FTC de l'autre côté États-Unis qui va regarder en se disant, dites donc, ça c'est quand
ça
même...
Ça fait pas un peu too much?
Ça s'appelle un futur abus de position XXL. Et c'est intéressant, donc on va regarder ça de près. Donc je pense en effet que ça va être intéressant pour Apple de pas mettre ses œufs IA dans le même panier, donc diversifier au maximum les interopérabilités qu'ils peuvent faire avec d'autres solutions d'IA générative, mmh. et voir comment ils peuvent justement éviter ces chausse-trappes en matière de régulation à venir, parce que ça aussi, ça leur pend au nez.
Ce qui est intéressant, c'est que il y a déjà des précédents hein, de smartphones qui ont vu leur IA arriver. Samsung a dégainé le premier avec un Galaxy S24 qui était boosté à l'intelligence artificielle. On s'est dit, bon, c'est peut-être du marketing, etc. Ben, pas du tout. Les ventes de S24 ont explosé.
Oui, voilà. Enfin, le rapport de cause à effet.
Bah, pourquoi pas. Tu te dis, c'est peut-être parce que justement, et je sais pas si tu as vu les pubs qu'il y a dans les magasins et trucs comme ça, c'est Samsung Galaxy 24 boosté à l'IA, etc.
Et avec Gemini en l'occurrence.
Et avec Gemini, oui, et voilà, ils ont travaillé avec Google pour apporter leur IA, mais on a l'impression que c'est aussi un argument de vente supplémentaire sur un marché du smartphone qui s'essouffle, où tous les smartphones se ressemblent, ils font tous de belles photos maintenant, ils ont tous une autonomie correcte. Voilà, ouais. et là c'est un petit différentiel chez Samsung qui apporte quelque chose. Et d'ailleurs, Honor vient de sortir un nouveau téléphone. Pareil, il communique sur l'intelligence artificielle. Donc, si Apple, qui voit un peu ses petits copains, bien voilà, rebooster leur vente simplement en communiquant sur l'intelligence artificielle, là, ils vont être, à mon avis, ils sont au pied du mur, quoi.
Ouais. Non, mais c'est intéressant. On peut penser que l'IA fait vendre, en fait. Et ça, il y a une appétence, il y a une curiosité. Tout le monde entend parler d'intelligence artificielle depuis un an.
C'est vraiment le truc hype, en plus.
Voilà.
Au-delà des usages, voilà.
Et c'est drôle parce que je pense qu'il y a une partie des gens qui ont un peu peur, évidemment, enfin, voilà, pour X raisons. Mais il y a aussi beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'appétence et oui, le S24, c'est certainement un des facteurs de séduction. Hein.
Après, on le dit souvent, il faut éviter de jouer aussi au bingo blabla et au buzzword à l'envi dans des grandes périodes comme ça de mode et de trend technologique.
Ouais.
Mais j'écoutais Anthony Morel, autre personnalité fascinante, n'est-ce pas, qui, il y a quelques jours, donnait cette info absolument dingue, la SEC ayant sanctionné deux boîtes de fintech aux États-Unis pour avoir trop vanté leurs outils d'intelligence artificielle générative, qui en réalité n'était pas réelle et donc tromperie sur la marchandise en quelque sorte. Et ben ça aussi ça va être intéressant, c'est-à-dire que à partir du moment où Apple va pouvoir rendre lisibles les features avec de l'IA générative, concrètement si je booste mon smartphone, mon iPhone à l'IA générative, ça me donne quoi pour moi en tant qu'utilisateur utilisatrice comme rapidité d'interaction, comme facilité de connexion.
Bah déjà Siri, si on a un Siri un peu plus intelligent, ça serait cool.
Mais même Luc Julia dit que Siri est le logiciel le plus bête qu'il ait jamais
montré. Oui, c'est ça. Et il disait, on lui avait posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner un peu d'intelligence à Siri. Il a dit, il faut tout changer. Parce qu'en fait, toute la structure de Siri a été faite il y a des années, et voilà, il faut repartir d'une page blanche et réinventer Siri, et ça prend des années, des années. C'est peut-être pour ça aussi qu'Apple se précipite vers des sous-traitants d'IA, parce qu'ils sont pas prêts. Et je pense que c'est ça aussi. On a vu qu'il y avait des mouvements de personnalités de l'IA qui arrivaient chez Apple.
Ils ont arrêté la voiture, et notamment ils en ont profité pour basculer les équipes sur l'IA.
Oui, mais bon, tu sors pas un large language model comme ça en 6 mois. C'est pas possible. Même si tu t'appelles Apple.
Il commence à montrer sur les blogs, ils commencent à montrer un peu des expériences qu'ils font, notamment sur la reconnaissance d'image, sur la description d'image, etc. Ils travaillent sur le sujet, voilà.
Et mais il y a même on parlait d'un papier de recherche qui était, paraît-il, hyper prometteur sur leur modèle qui s'appelle,
Ajax.
Ça doit s'appeler LMA, en cours MMA ou MM1, je ne sais plus. Et qui, surtout, serait multimodal. C'est ça, c'est le nouveau graal de l'IA.
Audio, vidéo, écrit.
C'est multimodal en entrée, en sortie. Je peux te faire du texte, de l'image et de la vidéo, mais aussi je peux te reconnaître du texte, de l'image ou de la vidéo. Avec, on te montre une bouteille de bière et un ticket de caisse, et l'IA arrive à comprendre le prix de la bouteille de bière, en fait. Ça, c'est
pas mal.
C'est un cap intéressant.
Donc, c'est quasiment un smartphone figuré AI. On a été fascinés par cette vidéo avec l'incorporation de ChatGPT dans Figure One, qui est le robot humanoïde.
Qu'on avait commenté et qui était
absolument
impressionnant, c'est vrai.
On a eu très très peur.
Ce truc-là, c'est incroyable, hein, ce robot qui répond.
Et surtout,
au doigt et à l'œil, à ce que lui dit l'humain, c'est fou, quoi.
Ouais. Une question de rapidité
qui est assez impressionnante. Bon, on verra bien, mais c'est vrai qu'on se dit toutes ces fonctions IA sur l'iPhone, ça pourrait être quoi? Si on regarde ce qui se passe sur le Galaxy S24, c'est la traduction en temps réel si vous appelez un étranger. Voilà, vous êtes en train de dialoguer avec lui et vous avez un interprète géré par l'IA qui vous traduit tout ça.
Ce que propose à peu près le S24.
C'est ça. ça. Ouais. Ben voilà. Il y a aussi des systèmes de résumés, de conférences. Enfin, des choses d'ailleurs qu'on peut avoir sur l'iPhone en installant des applis, parce que tout ça existe déjà. Hein. Mm. Vous pouvez installer ChatGPT sur votre iPhone. Enfin, il y a plein de choses qui sont, ouais, qui sont déjà fonctionnelles, mais pas dans le dur du téléphone.
Voilà. Je pense que maintenant, on va passer...
En plus, je pense que Apple est assez pointilleux là-dessus, donc ce qu'ils aimeraient, c'est sans doute que les traitements se fassent en local au, ouais, lieu d'aller se balader sur le cloud.
C'est ça, oui. Autre débat, ça.
Safety, ouais, first.
Non, mais ce que je veux dire, c'est juste qu'il y a maintenant ce qu'on peut faire, donc c'est l'étonnement sur ce qu'on peut faire, mais on va vite arriver à ok, mais il faut le faire bien, quoi. C'est pas le tout d'avoir un traducteur ou d'avoir, mais il faut qu'il soit parfait, le meilleur, parce que les assistants vocaux c'était fascinant au début, mais aujourd'hui on est tous à dire qu'ils sont pas bons, que Siri est nul, etc. On devient de plus en plus exigeant.
Bon, alors sur le tableau blanc du bureau de Tim Cook, il y a mettre de l'IA à fond dans iOS 18. Il y a pas que cette ligne, il y en a d'autres.
Trouver le des DMA, trucs à faire avec.
Qu'est-ce qui m'emmerde ces Européens, je pense, de voir ça.
Oui, vous êtes, oui, oui.
Et dessous, peut-être, le gouvernement européen et le gouvernement américain qui m'ennuie un petit peu aussi, pour rester poli. Hein.
À cause sans doute des Européens.
Oui, oui.
À cause sans doute des Européens. Alors, on en parle quasiment tous les soirs dans Techno, mais je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que, on va dire que Apple est en train de vivre une période qu'il n'a jamais vécue et qui risque de transformer profondément cette boîte? Ou est-ce que vous pensez que finalement, ils ont tellement d'avocats, tellement d'argent, qu'ils vont pouvoir gagner tellement d'années avant?
Oui, enfin,
que...
ça dure un temps, l'histoire d'avocats et d'argent, mais le fait est que c'est vrai que...
On est d'accord que ça craque quand même,
oui,
dans tous les sens.
C'est tout le modèle qu'a bâti Apple depuis des dizaines d'années qui est en train d'être remis en question.
En Europe, les États-Unis, ça commence vraiment, ouais, à grincer des dents. Hein.
Ah, c'est les modèles intégrés qu'on veut voir finalement imploser, qu'on va... Enfin, que le régulateur, les régulateurs et régulatrices de tous les pays tentent de faire imploser pour pouvoir ouvrir, parce que c'est leur job, au maximum la concurrence. Oui. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir, parce que la question que tu poses en réalité, c'est la legacy, c'est l'héritage de Tim Cook. Est-ce que c'est un héritage purement business et régulation? Est-ce que c'est un héritage purement produit et innovation? En tout cas, pour l'instant, par rapport à un Steve Jobs, on peut pas dire que ce sera un héritage de progrès pur et dur. Tu sais que le progrès, c'est ce sur quoi toutes les plateformes, toutes les big tech, enfin ce à quoi, ce rêve auquel elles ont voulu nous faire croire et auquel on a adhéré aussi, en étant fasciné un petit peu aussi par les technologies qu'elles nous proposaient au fur et à mesure. Qu'est-ce qui va rester de Tim Cook? Ça, c'est vraiment la question à 1 000 $ pour l'instant.
Didier, tu avais commencé ta petite
réflexion
là-dessus.
Oui, je pense que c'est intéressant parce que c'est en fait deux idées de l'entrepreneuriat qui s'affrontent. L'idée des États, qui n'est pas la même que celle des entreprises. Encore une fois, Apple avait créé un modèle qui était qui s'est de plus en plus resserré avec ses applications, avec ses partenaires. On a parlé tout à l'heure de ses matières premières, le fait qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs processeurs, etc. Parce que Apple est part du principe que rien n'est mieux que l'intégration pour offrir le meilleur bénéfice aux clients. Ça se discute, c'est pas la question n'est pas là, mais c'est ça qu'on met en question. Donc ça veut dire c'est leur mode de pensée en fait qu'on est en train de remettre en question.
Mais c'est leur matrice.
Oui.
Après il y a aussi leur modèle économique, il y a leur modèle de pensée, et ce modèle de pensée, ça tombe bien, il fait gagner beaucoup d'argent.
Ah oui. Aussi. Ouais, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas injuste, c'est un autre débat. Quoi.
Je ne sais pas si c'est une question si secondaire aussi. Est-ce que c'est bien ou pas bien le modèle fermé? Parce que franchement, on pourra en débattre, avoir des avis sur la question. Ça a beaucoup d'avantages. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que il y a le côté expérience utilisateur. Ils ont toujours mis ça en avant. Oui. Mais bien sûr qu'il y a le côté prison dorée, chasse gardée. Le côté voilà, tu as l'iPhone, tu vas acheter la Watch, tu vas acheter l'ordinateur parce que tout fonctionne ensemble et le jour où on ouvre, c'est ça qu'on fait trembler. Maintenant, il y a autre chose. Moi, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de repenser au glorieux prédécesseur dans une bataille identique qui était Microsoft dans les années 90. La situation n'était pas la même puisque Microsoft avait essuyé les mêmes accusations, mais il n'était pas sur cette logique totalement fermée. Donc, effectivement, la donne n'est pas tout à fait la même. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des mois, des années de procédures, de batailles, etc. Microsoft Microsoft a réussi à mettre de l'eau dans son vin, à se retourner, à virer de cap, les technologies ont évolué, tout a évolué. Donc Apple, on n'a pas de souci à avoir pour eux.
Non.
Ils s'adapteront, mais je suis d'accord que c'est sans doute certainement une période.
C'est une remise en question d'un modèle quand même.
Ouais, mais enfin, quand tu vois qu'aux États-Unis, ils attaquent eMessage, qui devrait être compatible avec les autres téléphones, et notamment les téléphones Android.
Finalement.
Ça va être un peu le cas finalement avec le RCS qui va arriver, donc peut-être qu'Apple a anticipé ce problème-là. L'Apple Watch, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Apple Watch, elle est montrée du doigt aux États-Unis parce qu'elle est vraiment dans un système fermé, dans cet écosystème avec iPhone. Et justement, le gouvernement américain aimerait que l'Apple Watch puisse être compatible avec les autres téléphones, en fait.
Encore une fois, c'est idéologique.
Oui, c'est idéologique. Ouais. Et c'est impressionnant. Et je trouve que parfois même, les décisions du gouvernement américain sont plus dures que celles de l'Europe. intéressant, ça va être intéressant de voir comment tout ça évolue. Enfin bref, on verra bien. Mais sur le tableau blanc de Tim Cook, il y a 2-3 lignes quand même en ce moment. Et c'est vrai que, voilà, en plus lui, on l'a dit, hein, il compte prendre sa retraite, on ne sait pas quand. Il commence. Alors, il n'est pas vieux, hein, Tim Cook, mais bon, voilà, il faut laisser la place aux jeunes, surtout dans des boîtes technologiques comme ça, où il faut être vraiment à la page, penser le coup d'après, etc. Alors, même s'il est bien entouré, il va sentir maintenant qu'il faut passer la main.
Mais en plus, Apple, c'est une boîte de vieux, hein.
C'est vrai que ça a toujours été une boîte de vieux, tu as raison.
Enfin, toujours, je sais pas, mais aujourd'hui,
tous les grands...
T'as pas de petits génies dans le top 10
non,
management.
C'est
que des vieux de la vieille, des mecs qui étaient quasiment tous là avec Steve Jobs.
Bon, on referme la page Apple, on aura l'occasion de la réouvrir, ne vous inquiétez pas. On s'attaque à l'anonymat sur les réseaux sociaux. Sujet. Ouais.
On va te régler ça très vite.
Important. Paul Midi, député Renaissance, vous avez peut-être suivi ça, c'était en début de semaine, avec 125 co-signataires, membres de la majorité, veulent que les utilisateurs des plateformes soient contraints de s'enregistrer. Donc on s'enregistre, alors soit par une interface France Identité, etc., avant d'aller sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Pour qu'en fait on ait une couche au-dessus, une espèce d'ombrelle d'identité, pour qu'on puisse vous reconnaître facilement. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là?
Sondage à l'appui, 85%.
Mais oui, mais le sondage, il vient d'où? Personne ne sait d'où il vient, ce sondage.
Ah, le sondage qui est recité.
Tu sais quelle est la source ou pas?
C'est pas un organisme.
En l'occurrence, c'est Harris Interactive et l'Axel, en fait, qui il y a quelques semaines.
Non, moi, il y a trois choses qui me gênent dans cette histoire-là. Un.
Deux, trois, Didier. Je sens Didier un peu remonter les années. Attention.
Les gens qui disent Yaka. Voilà. On va résoudre le problème de la cybercriminalité et du harcèlement sur Internet. Il n'y a qu'à supprimer l'anonymat sur Internet.
Déjà, c'est un peu comme les 3 gigas par semaine.
Voilà. Hein. Les mecs ont des formules toutes faites comme ça et un problème. En plus, c'est un truc qui recycle tous les 3 ans. Hein.
Ah, ça revient régulièrement.
C'est un vieux serpent de main.
Alors, ça, premièrement. Deuxièmement, l'histoire de l'anonymat sur Internet, mais on est où? Je veux dire, ce qu'il veut, c'est ficher les gens. C'est ça, en fait. C'est ficher les internautes. En fait, l'anonymat sur Internet, c'est pas un problème. Le problème, c'est pas ça. On sait très bien qui sont les gens. Regarde, au procès de Magali Berda, ils ont chopé combien? Une trentaine de mecs qui ont défilé.
Ouais.
Ok. Le procès de la
CIPE.
Oui, mais parce que la loi de 2004 sur l'économie numérique a déjà.
Il y a des lois qui existent.
Sauf
tu veux
que
savoir
côté hébergeur et côté telco. Enfin,
mais c'est compliqué, c'est long, compliqué.
J'ai pas fini ma démonstration. Donc il y a des lois qui font ça. On l'a vu pour Magali Berda, on l'a vu pour la petite comment elle s'appelle, Mila, c'est ça, qui s'est harcelée.
Oui.
15 mecs qui ont défilé devant la barre, qui ont été condamnés. On l'a vu avec les 3 bonhommes qui ont chopé les données de France Travail, etc. Donc on peut remonter, l'identité des gens. Stop, laisse-moi finir. On le sait, c'est facile.
Attention, ne marchez pas sur les pieds de Didier.
Il a une adresse IP, on remonte à son fournisseur d'accès, l'adresse IP c'est monsieur machin qui paye son abonnement à tel endroit, etc. C'est pas ça le problème. Le problème c'est les moyens et le personnel.
Ouais.
C'est-à-dire que il faut appliquer ces lois. Les lois existent. On peut savoir qui fait quoi sur Internet. Mais simplement, il faut qu'il y ait des enquêteurs. Il faut qu'il y ait des gens qui soient présents pour aller justement débusquer l'identité de ces gens et donc des moyens. Et ça, le problème, c'est là.
Ouais.
Donc ça sert à rien dire. Il n'y a qu'à créer des plaques d'immatriculation pour les gens. C'est quoi? On est où là? Ou faire je ne sais pas quoi. Ça existe. On peut savoir qui sont les gens. On peut.
En l'occurrence, c'est déjà un argument que Paul Midi avait défendu en amendement dans la loi numérique que Jean-Noël Barrot présentait il y a quelques mois lorsqu'il était ministre délégué au numérique et aux télécommunications, je le rappelle, ça fait toujours sourire. Amendement qui avait été lâché par la majorité et par le gouvernement en disant, mais en l'occurrence, ça existe déjà dans la régulation européenne, donc on va se faire taper de toutes les façons par la Commission, puisque bah, y a déjà une transposition qu'on doit faire. Par ailleurs, il y a déjà 50 nuances d'anonymat ou de lever l'anonymat en ligne qui existent. Encore une fois, la loi de 2004 sur l'économie numérique qui oblige les FAI, les telcos et certaines plateformes à donner des informations d'identification d'usagers et d'utilisateurs contrevenants en cas de cyberharcèlement, en cas de crime majeur, en cas de toutes de mes informations, tous les cas que tu as donnés sont absolument là pour en témoigner. Et puis, aujourd'hui, Marina Ferrari redit à Paul Midi et à ses co-signataires, on n'a toujours pas changé de position en l'occurrence, ce sera toujours non. C'est-à-dire que la levée de l'anonymat, le gouvernement ne la souhaite pas. Donc, c'est pas la peine d'insister, les amis, on a d'autres moyens pour pouvoir réussir à faire que l'identification des utilisateurs contrevenants puisse justement être faite. Par contre, ce que Paul Midi ajoute à ces 50 nuances d'anonymat, c'est le pseudonymat, dont il dit qu'il faut absolument ouvrir le pseudonymat pour les utilisateurs les uns entre les autres.
Il n'y a pas de ça, hein.
Ah si, il dit ça à un moment donné, je te jure, dans la lettre.
Il dit que publiquement, le pseudonymat serait maintenu.
Oui.
Tu peux continuer à t'appeler Josette 92.
Oui,
mais
ça complètement.
C'était toi.
Mais simplement, si la police veut savoir qui est derrière Josette 92, ce serait beaucoup plus facile.
Vous savez quoi ?
Ouais.
On va enquêter sur Josette 92.
Ok.
Pendant l'info écho. Et on revient, parce que je sais que Jérôme a des choses à dire là-dessus. On va terminer sur la loi. Cette loi. C'est même pas une loi.
C'est un ballon
son. Voilà. qui n'arrivera jamais. Mais on va terminer là-dessus. On parlera aussi de Truth Social. C'est l'arroseur arrosé, hein, finalement. Donald Trump, qui il y a quelques années s'était fait gicler de tous les réseaux sociaux, avait créé son Truth Social. Maintenant, ça cartonne. Il paraît qu'il est hyper riche maintenant, grâce à son réseau social.
On va y revenir.
Voilà.
Il y a 50 nuances aussi de vérité là-dedans.
Et vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne, revient dans quelques minutes avec Marjorie, Didier et Jérôme. A tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, 20h35, merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne, on débrief l'actu avec Marjorie Paillon ce soir, Didier Sens et Jérôme Colombin. Messieurs, dames, on termine l'anonymat des réseaux sociaux.
Ouais,
Jérôme, tu voulais nous dire un truc là-dessus.
Écoute, moi franchement, j'ai pas d'avis tranché sur cette question qui est super délicate, parce que effectivement, c'est deux logiques qui s'affrontent. Pourquoi on est contre la levée de l'anonymat, enfin pseudonymat, puisqu'il ne s'agirait pas de lever le pseudonymat, mais enfin, de pouvoir identifier plus facilement les gens. C'est parce que, oui, on part du principe que dans certains pays, à certains moments, certaines personnes ont besoin de se cacher pour les lanceurs d'alerte, révéler des choses, etc. Mais, d'un autre côté...
Il y a aussi d'autres personnes qui, tout au long de l'année, tout au long de leur vie, crachent sur des collègues. Enfin, il y a...
C'est le côté obscur de la force.
Le harcèlement.
Mais c'est ça. Et on a quand même atteint, et il se réfugie là-dessus, derrière ça, Paul Midi, c'est ce qu'il met en avant. C'est une manière de dire, attendez, ok.
Ça suffit, quoi.
On peut avoir une vision.
On va pas pénaliser tous les internautes pour des délinquants, tu vois ce que je veux dire.
Pourquoi tu dis pénaliser, justement,
Tu as déjà une carte d'identité, une carte Sésame Vital, une plaque d'immatriculation à ta voiture,
t'es identifié à ta banque. On sait exactement où tu es.
Je veux dire.
Mais c'est la même chose. Tu commets un crime dans la rue, tu te fais arrêter et tu vas en prison. Tu commets un crime sur Internet, on te lève ton anonymat et on te retrouve.
Tu parlais tout à l'heure de. Du procès,
on ne va pas le faire pour tout le monde, on ne va pas ficher tous les gens.
Mais ce n'est pas plus fiché. Enfin, encore une fois, je ne veux pas défendre le truc, hein, mais je trouve qu'il ne faut pas avoir une position idéologique ni d'un côté ni de l'autre. Il faut vraiment réfléchir de manière pragmatique face à un problème qui est réel. Et tu parlais du procès de Mila, des harceleurs de Mila, ok, très bien. Mais pour un procès de cyberharceleur, il y a combien de familles qui sont confrontées à des problèmes de famille ou
ça n'a rien à voir avec le fait de
d'indépendant, des journalistes qui s'autocensurent parce que sinon ils se font harceler.
Ok, ça a à voir avec le fait qu'il n'y a pas assez de moyens et de personnel engagé dans cette lutte.
Ok, et tu vas régler ce problème-là comment?
Eh ben, je sais pas. Du coup, si. Qu'on augmente le budget, tu vois,
mais
je veux dire,
les gars.
C'est une décision politique.
C'est aussi
c'est un problème juridique.
C'est aussi peut-être de simplifier les procédures. Si un policier dans un commissariat de quartier, en trois clics, parce qu'il est policier, sous contrôle d'une autorité judiciaire, avec des traces administratives, peut savoir très vite qui se cache derrière un compte sur un réseau social, je sais pas, faut se poser la question,
non,
c'est
attendez,
peut-être pas absurde.
Juste un truc, regardez un petit peu la sécurité routière. Au départ, les radars n'étaient pas automatiques. Hein. Il y avait un gars qui était là avec son pistolet, il surveillait comme ça, au tournant, et de temps en temps, il en chopait un. Okay ? Alors qu'il y avait beaucoup plus de gens qui roulaient très vite. Mais il n'avait pas le temps, en fait, de recharger son machin et tout. Sont arrivés les radars automatiques. Mmh. Finalement, quand on transpose ça à Internet, c'est un peu Hadopi. Hadopi piste les adresses IP qui sont dans l'illégalité parce qu'ils téléchargent des fichiers
oui,
pirates.
Et alors, où tu veux en venir?
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait très bien avoir une espèce de, si tu veux, de surveillance, mais qui soit assez light et qui permette à, je sais pas moi...
D'intervenir plus vite.
D'intervenir à des fonctionnaires, à partir du moment où il y a quelqu'un qui remonte une information...
À me résoudre de penser que tous les gens sont coupables a priori. Je ne comprends pas ça.
C'est pas la question.
Si c'est ça l'idée, c'est on va enregistrer l'identité de tout le monde, comme ça on saura si c'est eux ou pas. C'est ça l'idée, on leur demande de s'inscrire, de donner une preuve de leur identité, etc. A priori.
Avec l'adresse IP, on sait exactement que tu es derrière ton ordinateur.
Oui, commis une faute.
Même utilisateur lambda. Enfin, quand tu utilises ton réseau social.
Mais personne n'a besoin de savoir si c'est toi ou pas.
Tu communiques forcément sur ton adresse IP par défaut, la plateforme sur laquelle tu es en train de communiquer.
Sur ton téléphone ou sur ton ordi.
Donc la question ne se pose même pas.
Mais non, alors la question, c'est un vieux serpent de mer parce qu'elle remonte d'abord.
C'est ce que je dis, mais on les aura pas. Ça n'existera pas.
Donc ce que tu brainstormais à voix haute, c'est l'idée de se dire qu'on pourrait avoir finalement des systèmes de vérification d'identité automatisée. Donc c'est des IA vérificatrices d'identité.
Ça s'appelle la Chine. À partir du moment où on les sollicite, qu'elles ne soient pas systématiquement.
Ça s'appelle pas le social credit system non plus. C'est pour ça justement que le gouvernement aujourd'hui essaie de dire à Paul Midi, on t'a déjà dit non une première fois, on va te redire non une deuxième fois, parce que notamment ces dispositions-là, je vous signale qu'elles sont quand même un petit peu dans quelque chose qu'appelle le DSA et qui nous dit que ce qui est illégal dans la vraie vie est aussi illégal en ligne.
Voilà, exactement.
Tout un volet de régulation et de législation qu'il suffit juste d'appliquer.
Qui a dit que sur les réseaux sociaux, il fallait absolument être anonyme et faire absolument n'importe quoi? Elle est où cette loi? Quand le sujet de l'anonymat revient, tu as toujours les vieux de la vieille, tu sais, ceux qui ont connu la netiquette et compagnie.
Qui fait un boulot formidable par ailleurs sur les libertés en ligne.
Ouais, mais je veux dire, c'est une position un peu idéologique sur Internet. Ça doit être la liberté absolue.
Non.
Et les réseaux sociaux, ça doit être le bordel généralisé.
Il vaut mieux que les autorités réagissent quand un problème est identifié, quand un crime est commis.
Ça, c'est déjà le cas. Mais okay. pas assez.
Plutôt
et pas
que d'avoir
facilement,
des précogs comme dans Minority Report où on va s'amuser à savoir avant que le crime soit commis qui est susceptible de le commettre.
Sans que ce soit bienvenu à Gattaca. Mais sans que ce soit bienvenu à Gattaca ou Minority Report, ça me rappelle juste les débats, parce que je suis une très vieille personne, qu'on a eu il y a quelques années sur la loi de programmation militaire où on s'écharpait exactement sur les mêmes points. Sur la question de l'identification des utilisateurs et des utilisatrices, et sur le fait que la loi de programmation militaire voulait renforcer justement la vérification des identités des internautes. Donc, ça ne vous rappelle pas des débats qu'on aurait pu avoir ici par rapport à moi? Ça me rappelle sur d'autres plateaux, mais bon, voilà. On est en train de se reposer les mêmes questions une dizaine d'années après. Hein.
Parce que c'est super difficile. C'est où est-ce, c'est qu'on, met, où est-ce qu'on met le curseur
de dire, c'est de la démagogie. De dire, il n'y a qu'un fichier tous les internautes, comme ça, tout de suite, on va mettre un terme au harcèlement. C'est
Didier,
n'importe quoi.
Tu te ferais harceler par une bande de psychopathes, tu ne trouverais pas que c'est démagogie.
Mais ce n'est pas la question. La question, je porte plainte et je demande aux autorités judiciaires de retrouver ces mecs-là, comme l'a fait Mila, comme l'a fait Magali Berda, comme l'a fait
un pauvre mec tout seul dans un village et qui va aller se battre.
Mais ça changera quoi pour lui? C'est exactement la même chose.
Non mais regarde, est-ce qu'on peut pas imaginer un truc qui soit un peu entre les deux? Par exemple, t'es sur Twitter, tu te fais harceler, d'accord? Tu signales ton tweet et que à ce moment-là, Twitter envoie ce tweet aux autorités qui pourraient ça. Attends,
c'est une boîte privée.
Non, attends, laisse-moi terminer. Mais tu sais qu'on peut très bien avoir des injonctions et que Twitter soit obligé par une loi, bien sûr. Mais à ce moment-là, que l'auteur de ce tweet, qui est malveillant, qui aurait été vérifié et on va dire vérifié comme être malveillant, eh bien à ce moment-là, il reçoit un mail officiel parce que on a retrouvé son adresse IP. Attention, Monsieur Didier Sens, sous votre pseudo Josette92, vous avez harcelé Jérôme Colombin et vous l'avez traité de ça.
C'est toi.
Décidément, Josette.
Non, mais attention. Premièrement, première fois ça va. Deuxièmement, lettre recommandée. Troisièmement, vous aurez une amende. Tu vois, un truc tout bête comme ça, qui pourrait calmer peut-être les ardeurs des gens qui se mettent, qui se cachent derrière des réseaux sociaux pour faire n'importe quoi.
La question, c'est est-ce que c'est pénal, criminel, est-ce que... Voilà.
Comme un dossier, je dirais. Tout dépend de la qualification du crime qui a été commis.
Tout dépend de la qualification. Si ça rentre dans un cadre juridique et identifié comme étant un crime, un délit ou je ne sais quoi, ben, les autorités judiciaires arrivent et disent à Monsieur Twitter... Qui est ce bonhomme-là?
Et ça, ça se fait tous les jours.
Ça
se fait par paquet de sang tous les jours, ce truc-là. Hein.
Mais donc c'est là que je dis pourquoi il y a besoin de lever l'anonymat, puisqu'on sait que c'est lui qui a envoyé le tweet. Après, on va voir le monsieur avec son adresse IP. On dit à monsieur Orange ou à monsieur Bouygues qui est le bonhomme qui a son adresse.
Mais c'est déjà le cas.
Mais voilà,
mais ça marche pas. Il y a un truc qui marche pas.
Il y a un truc qui marche pas, c'est le manque de moyens et le manque de détermination.
Vous êtes pas d'accord.
Au-delà des moyens, au-delà de la législation,
on va pas y arriver.
Il y a aussi une question toute bête, c'est l'éducation. Peut-être que si on apprenait un petit peu mieux aux utilisateurs que nous sommes, qu'on est aussi citoyens et citoyennes du numérique,
tu arriveras à faire baisser de 10% le niveau de haine.
Mais il y a un moment où c'est aussi extrêmement important de comprendre.
Mais tu sais, il disait une chose, et il a été beaucoup raillé d'ailleurs, Paul Midi. Encore une fois, je ne veux pas défendre son truc, mais il parlait de sentiment d'anonymat. Absolument. Et tout le monde a rigolé sur le hack. Qu'est-ce que c'est que ça? Sentiment d'insécurité, sentiment d'anonymat. C'est pas idiot. Sentiment d'anonymat, sentiment d'impunité. Et il existe ce sentiment d'anonymat et d'impunité. Tous les cyberharceleurs dont tu parles, pour Mila et pour toutes les autres affaires. Ah, mais moi, je me suis pas rendu compte, j'étais chez moi et tout. C'est ça la difficulté.
Mais c'est justement tu reçois un mail officiel dans ta boîte mail.
Mais c'est
disant,
surtout.
Ben voilà,
c'est
vous êtes allé un petit peu trop loin sur ce tweet, faites attention.
Ça devrait être le boulot des modérateurs de X et
non, mais
de
c'est surtout le parallèle avec. Je faisais le parallèle avec Adopi parce que c'était un peu ça finalement, Adopi.
Une réponse graduée sur
on avait une
les
réponse graduée, on recevait un mail et puis après tu recevais un recommandé.
Enfin,
puis après,
je sais pas si ça marchait d'un autre côté. Mais bon.
Je sais pas, mais peut-être que ça marcherait pour les réseaux sociaux.
Mais c'est surtout que là, en fait, pour aller sur les réseaux, tu devrais décliner ton identité en gros. Alors c'est vrai que ça fait un peu policier, ça je suis d'accord.
Les amis.
C'est ça l'idée.
Bon, voilà. On va pas y arriver, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'on a chacun des avis un peu tranchés sur ce sujet. Est-ce que vous serez aussi tranché avec Truth Social de Donald Trump, lancé, rappelez-vous, ce réseau social en 2021, lorsqu'il s'était fait bannir de Facebook, de Twitter, etc. Il avait un petit peu vexé. Il avait créé son réseau social. Et aujourd'hui, ce réseau social fait une entrée en fanfare à la Bourse de New York, Marjorie.
Fait une entrée en fanfare à la Bourse de New York parce que entre le lancement de Truth Social et aujourd'hui, il y a notamment eu un groupe média qui s'est constitué autour des activités médias et social media de Donald Trump, qui aujourd'hui répond au joli nom de Trump Media and Technology Group Corporation. Et l'indice sous lequel Truth Social est coté aujourd'hui, c'est DJT, Donald J. Trump, tout simplement, et qui en effet a énormément plus sur son premier jour de cotation aux investisseurs et aux investisseuses. Ce qui est intéressant, c'est au-delà du fait qu'énormément d'investisseurs y sont allés avec des gros financeurs du Parti Républicain et surtout des pro-MAGA, Make America Great Again, c'est surtout le fait de voir à quel point finalement on a affaire à des défenseurs de Donald Trump qui veulent voter avec leur portefeuille.
Ça. Ils ont voté à la bourse.
Absolument.
C'est ça.
Et on va voir dans le temps.
D'autant qu'il était dans une situation financière compliquée.
Exactement, parce que lundi, le tribunal de New York, en l'occurrence, lui réclamait un petit peu plus de 450 millions d'euros.
Après, ça a été baissé à
175 pour le coup. Donc, il a pas ce demi-milliard presque de milliards de dollars, je vais y arriver, à régler de façon sonnante et trébuchante. Mais la valorisation de Trust Social aujourd'hui est à plus de 3 milliards, si je dis pas 13 milliards désormais. Ah oui, avec la cotation, tu as raison.
Qui est complètement délirant.
Ça marche ou Social? Enfin, moi, je sais pas.
Non, parce que c'est un
peu. Mais non, ils sont déficitaires.
Ils sont en déficit. D'abord, ils gagnent pas d'argent.
Ils ont 5 millions d'utilisateurs à peine.
Ils perdent 50 millions de dollars chaque année.
Donc, ils sont pas du tout rentables. Pour donner un ordre d'idée, dans le même
d'ailleurs,
temps.
D'ailleurs, tout ça, c'est le soutien de
Donald Trump. On a notre réseau social qui a fait son IPO en même temps, c'est Reddit. Et Reddit, pour le coup, ils sont largement bénéficiaires. Ils gagnent 800 millions de dollars par an, si je dis pas de bêtises. Leur cotation est extrêmement aussi bien valorisée par les investisseurs et les investisseuses. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a juste un vote par portefeuille interposé qui a été fait par les Promaga sur ce pari-là du DGT côté.
C'est incroyable. Mais c'est vrai, quand on prend un peu de recul, qu'on regarde ça, en plus, vu d'Europe et de France.
5 millions d'utilisateurs pour Too Social.
Oui,
c'est une estimation. Ouais, c'est ça. Parce que ridiculement, le réseau social ne
c'est ridicule.
Non, c'est même pas la base du Parti Républicain. Donc.
Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça va permettre à Trump de récupérer un petit peu de sous, de pouvoir payer ses amendes.
Je crois qu'il a 6 mois.
De 6 mois. Bon. Comme quoi, cette histoire qui a commencé comme un gag, quand il a créé Social, tout le monde se foutait de sa gueule en disant « Ah, les niens, regardez. »
Il a transformé ça en or, en tout cas pour l'instant.
Et c'est devenu,
le début, on sait pas
c'est devenu le moyen pour lui de rebondir. Quoi.
Alors, là, c'est la priorité, de trouver du cash. Hein.
Oui, pour le coup,
il fait d'autres trucs, il vend des bibles, je sais pas quoi.
Alors oui, il y a cette magnifique collaboration avec un éditeur de bibles. Il y a une collaboration dont il a fait la promotion avec un éditeur de bibles qui, dans la Bible, mais aussi la Constitution américaine, donc c'est en deux en un.
Ah, ouais.
Et Donald Trump faisait une vidéo en expliquant que la Bible était son livre préféré, qu'il en avait plusieurs à chez lui, d'ailleurs. Mm-hmm. Tellement il aime la Bible, il en a plusieurs chez lui.
Oui.
C'était absolument magnifique. T'as aussi les fameuses baskets, les Trump sneakers qui sont dorées avec des petites ailes sur le côté de toute beauté. Et tu as aussi un parfum Donald Trump, si tu as envie, évidemment, d'avoir la fragrance de Donald Trump. Tu as aussi cette magnifique bouteille qui est un petit buste de Donald Trump.
Après, on en parle parce que c'est
la fragrance de Donald Trump après les meetings ou avant les meetings?
J'ai pas envie de le savoir. Je peux aller très loin pour la politique américaine, mais là, pas à ce point-là.
On en parle parce que c'est Trump, mais aux États-Unis, je veux dire, le moindre petit business, la moindre entreprise, le moindre YouTuber, le moindre podcaster et tout, il a ses objets dérivés, son merchandising.
Et il ne faut pas oublier qu'on est sur, alors, non seulement une campagne où les deux nominés présumés, en l'occurrence, ont eux-mêmes établi l'âge record de leur nomination, personnes de 80 ans quasiment, et ont aussi eux-mêmes établi le record de dépenses sur cette campagne. Donc, en effet, ça demande à cramer beaucoup de cash.
On verra bien.
Quand il lève les mains comme ça, c'est qu'il faut s'arrêter.
Non, parce que on a énormément débordé sur l'anonymat des réseaux sociaux.
Timing.
Et je pense pas qu'on aura le temps de.
On n'a toujours pas réglé la question.
D'aller sur Big Flo et Oli, là, je pense que là.
Oh, c'est dommage.
Ils vont passer à la trappe. Ben ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas trop quoi vous dire, parce que Didier avait sélectionné aussi ce sujet concernant les données personnelles, vous savez, qui ont été raflées avec France Travail. C'est ça, hein? 43 millions de données. Ouais. Et là, il y en a quand même un paquet, hein, les adresses. Les adresses postales, elles sont en vente.
Alors, ils ont annoncé très rapidement qu'ils avaient arrêté les malfaiteurs. Hein, donc, encore une fois, grâce à l'élevé de l'anonymat. mais les types n'en sont pas restés là. Apparemment, le fichier en question est resté dans un coin, a été transmis à un complice qui, lui, maintenant, propose de les vendre en ligne. Et c'est un vrai problème parce que c'est des informations très complètes.
Alors, elles étaient sur la clé USB, vous savez, du gars qui a perdu son ordi. Où il y avait tous les plans des JO,
les Jeux Olympiques.
Il
y avait aussi les 43 millions de données.
Mais si j'ai bien compris, sur ces 43 millions de données, tu as les données des personnes actuellement inscrites en recherche d'emploi à France Travail.
Et anciens.
Depuis 20 ans. Donc ça veut dire que potentiellement, si nous avons réactivé notre statut à Pôle emploi avant les 20 dernières années, il y a peut-être des infos, alors qu'ils sont peut-être obsolètes aussi, mais qui doivent.
Alors on va conclure rapidement, comme ça sera fait. Rapidement pour dire que danger, c'est pas tellement qu'il y a pas de mot de passe, il y a pas de numéro de carte de bancaire, etc.
Mais il y a des portables, il y a des numéros.
Il y a des numéros de téléphone, il y a des adresses IP, des adresses physiques. Donc c'est ça le problème, c'est que ça peut créer un corpus qui va permettre aux arnaqueurs d'asseoir leur escroquerie sur une base légitime. C'est-à-dire, ils vont téléphoner chez vous en disant ah gna gna, vous êtes bien un monsieur machin, numéro de sécu de Schmoll qui habite à tel endroit, etc. Donc ça, c'est un premier risque. Et puis le deuxième risque, c'est un risque d'usurpation d'identité, parce que ils vont profiter de ces données-là.
Est-ce que je peux être Josette? Si Josette 27, par exemple, utilise l'adresse IP qu'elle a récupérée sur les forums dans le dark web pour justement récupérer ces données des 43 millions de Français qui se sont fait usurper sur le vol de données à France Travail, du coup, eh ben, le vide d'anonymat, c'est important. Ah, on revient sur notre exemple de départ.
C'est QFD. Ouais.
Didier, quand il a son regard comme ça, il n'a pas compris.
Non, je ne suis pas compris.
Et puis on est passé de Josette 92 à Josette 27. Est-ce que c'est la même? Je ne sais pas.
C'est beaucoup plus vieille.
Josette 27 a l'air un peu plus jeune. Quoi.
C'est sa sœur. Non, mais c'est scandaleux, cette histoire de menée de France Travail.
Mais ça prouve encore une fois qu'on n'est pas à la hauteur au niveau des infrastructures.
Et c'est toujours les mêmes histoires. C'est par le petit partenaire, c'est pas l'organisme lui-même qui est attaqué en direct. C'est toujours par la bande, en fait, que ça arrive.
Tu veux cambrioler une maison, tu passes pas par la porte d'entrée.
Exactement, hein, tu passes par le garage.
Et on va dire la même chose sur les ENT, hein, le réseau des lycées, qui est aussi devenu une passoire, malheureusement.
Oui, mais c'est pas, alors pour le coup, apparemment, c'est pas la même chose. C'est pas une brèche, c'est pas un piratage du réseau. Je sais pas si on peut appeler ça du piratage.
C'est récupération
de code et de mots de passe suite à du phishing. Il y a des gamins qui ont dû se faire avoir par des trucs, par des messages qui ressemblaient à l'ENT, apparemment. Et donc, les pauvres, ils ont donné leurs identifiants.
La double authentification dans ce cas-là.
Oui,
je sais pas,
absolument. Voilà. Tout à fait.
C'est tout.
C'est tout ?
On s'arrête là.
Non, on va pas s'arrêter là, monsieur Didier, parce que tu vas nous parler aussi de cybermalveillance.gouv.fr, qui est un site... voilà, qui a le mérite d'exister, qui permet de vous informer sur toutes les attaques que l'on peut subir quand on est dans le cyberespace, comme on disait il y a une trentaine d'années à peu près.
Les autoroutes de l'information.
Les autoroutes de l'information. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cybermalveillance.gouv.fr, depuis quelque temps, vous avez Sens Cyber pour apprendre et tester vos connaissances en matière de cybersécurité, et tu voulais nous en parler.
Je trouvais l'initiative très bonne. C'est intéressant que tout le monde, grâce à un organisme officiel, gouvernemental, puisse s'informer sur les risques, les menaces qui pèsent sur Internet, que ce soit Josette 92 ou Josette 28.
Je change de numéro à chaque fois.
Je voulais tester le premier module.
Laisse-moi finir.
Non, mais attends, le temps estimé, c'est 43 minutes, quoi. Donc,
43 minutes. Chose,
Alors, ah oui, donc tester tes connaissances.
L'initiative est très bien. La CNIL avait déjà fait. Je sais pas si vous avez vu, la CNIL avait déjà fait.
Oui, il y a longtemps, vous laissez des traces, etc.
Même pour savoir ce que c'est qu'un cookie, les machins, les trucs. Bon, donc c'était très bien que cybermalveillance arrive. Donc j'ai voulu regarder et effectivement, c'est très prometteur. Il y a beaucoup de choses dedans. Ça commence par acceptez-vous les cookies. Alors déjà pour un site officiel qui est censé être un service public, je n'apprécie pas des masses. Et deuxièmement, vous voulez savoir où vous en êtes, où on en est de la cybermalveillance, eh bien, inscrivez-vous et remplissez le formulaire avec votre nom, votre adresse, votre mot de passe, etc., etc. Donc, j'ai arrêté tout de suite parce que profiter d'un service public en donnant mes données, c'est rédhibitoire.
Ah, c'est pour critiquer, en fait, que tu voulais en parler.
Parce que l'idée...
Non, mais parce qu'il est très bien, ce site.
Bah, tu t'es inscrit, t'as donné tes
données. Je me suis pas inscrit pour ça, mais j'y suis déjà allé. Et en plus, je trouve qu'il est pas mal parce que tu y vas souvent, rarement de manière préventive, mais plutôt quand tu as un problème. Et quand tu as un problème, il y a une arborescence qui est assez simple. Vous êtes un particulier, un professionnel, qu'est-ce qui vous est arrivé, tac, 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 et tu te retrouves orienté vers telle ou telle solution. Évidemment, il ne faut pas y aller en pensant récupérer son argent si on a été scammé par téléphone la veille. Quoi. Mais quand même,
très bonne
même
initiative à l'origine, et c'est dommage qu'on en arrive encore à ces solutions où... on est considéré comme de la marchandise alors que c'est censé être un service public.
Mais enfin, ils vont pas t'envoyer de la pub après.
Si non, mais ils vont s'en servir autrement des données, tu sais très bien.
Non, je sais pas.
Oui, ils vont les commercialiser, ils vont les valoriser.
Cybermalveillance,
je ne sais pas.
On les vendra à Meta.
Pourquoi il y a des cookies? Pourquoi est-ce qu'ils te demandent de t'inscrire?
Mais les cookies, avec les réseaux sociaux et cybermalveillance,
je suis. Ça m'évite justement d'avoir enlevé mon anonymat sur.
Mais tu es Josette 89, 92 et 27 en même temps, je le sais.
Bon, et Josette 27, elle aime bien Bigfoot et Oli.
Non, mais plus intéressant, attends juste, on termine.
Merde, plus on va pas y arriver.
On y arrive
on va y arriver avec Big Four et Oli, mais plus intéressant, une initiative de Bit Defender.
Oui, ça c'est très bien. Scameo.
Voilà, Scameo. Avec leur chatbot, j'ai fait le test et ça m'a amusé. Parce qu'effectivement, c'est un espèce de chat GPT à qui on pose des questions, où on met des images, où on lui donne des liens.
Tu fais un screenshot, tu lui envoies le screen de ton SMS que tu as reçu, il te dit ça sent pas bon.
Pas bon. Et alors je lui dis, mon fils m'a envoyé un message sur WhatsApp me disant qu'il avait perdu son téléphone et qu'il était très embêté.
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Et voilà. Et il m'a répondu,
juste ça.
Il y a un très bon argumentaire où il te dit en gros qu'il faut se méfier, que ça ressemble énormément à une série de phishing qui ont lieu en ce moment sur.
Moi j'ai bien aimé le tweet de Jérôme là-dessus parce que t'as pris une capture d'écran parce qu'on a tous reçu ce message.
Ah oui. Je me suis lâché. Ou j'ai un message, papa, j'ai cassé mon téléphone. Appelle-moi vite.
Aide-moi vite, s'il te plaît.
Je dis, c'est dommage pour toi. T'as plus qu'à changer de papa maintenant. Mauvais PC, ça sert à rien, c'est débile, ça valide le fait que mon numéro existe, mais ça fait plaisir. Ça fait
Allez, pour terminer en clin d'œil, il nous reste quelques secondes. C'était pour vous parler de cette intelligence artificielle générative qui arrive partout, et notamment dans les clips vidéo. C'est le cas de Big Flo et Oli, qui trustent les charts français depuis pas mal de temps. Leur dernier single donc a forcément un clip, et le clip dont vous voyez les images a été réalisé par l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont prompté les images de ce clip et le résultat est là. Donc, voilà. Alors, il y a des gens qui sont pour, évidemment, c'est comme tout, des gens qui sont pour et d'autres qui disent ah oui, mais vous comprenez, voilà, vous rendez compte tous ces infographistes qui auraient pu faire ce clip qui disparaissent maintenant, qui n'ont pas été embauchés.
Alors, en l'occurrence, ils expliquent que c'est lié, parce que la chanson et le morceau qu'ils voulaient composer étaient sur les technologies. Ils ont voulu justement tester une techno pour pouvoir aller jusqu'au bout du projet pratique. Non, mais attends,
ils vont
se challenger aussi.
T'excuser parce que tu fais.
Non, mais voilà, il précise aussi dans la vidéo et en pied de vidéo que le sous-titrage a été fait par un humain et que l'assemblage après de l'ensemble des images générées par IA a aussi été supervisé par un réalisateur humain.
Et le résultat est plutôt joli.
Et c'est assez intéressant. Moi, j'ai bien aimé le passage. C'est un morceau qui dure plus de 4 minutes quand même. Mais j'ai particulièrement aimé le passage où tout va très vite, en effet. C'est vraiment le titre de la chanson. Et où Elon Musk se retrouve sur des billets de banque. C'est assez intéressant.
C'est évocateur.
C'est vraiment bien.
Non, mais c'est super intéressant comme sujet parce que c'est celui de la création par intelligence artificielle. Et là, ça y est, je veux dire, il ne s'agit pas de dire oh là là, je vais perdre mon travail ou ça va tout changer, c'est affreux ce monde.
Là, tu dois le truc.
Ça aurait été intéressant qu'ils fassent faire la musique par une IA aussi.
Ouais, ils auraient pu.
Peut-être dans un an ou deux.
On fait des trucs magnifiques, mais on est quand même encore à l'étape où on a besoin des humains.
C'est les prémices là, oui, mais ça, on le sait.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marjorie.
De rien.
C'est un plaisir.
Bon, journaliste. Merci Didier. Toujours les habits tranchés de Didier Sans. Un bonheur. Et puis Jérôme Colombin, évidemment, que vous retrouvez avec Monde Numérique, ton podcast.